Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Emma Strack, Christophe Brun, Patrice Romeden, bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour Michel. Michel.
Le 16 mai 1957 s'éteignait l'un des plus célèbres policiers du monde. Un mythe qui a été célébré dans une série diffusée à la télé dans les années 60.
Un français ?
Maigret ?
Non.
Colombo.
Lupin.
Non. Arsène.
Non. Je sais pas.
Elliot Ness.
Bah oui.
Elliot Ness, le policier de Chicago qui a arrêté Al Capone, le plus célèbre gangster américain. Al Capone, qui avait contracté la syphilis dans sa jeunesse. Son état s'est aggravé en détention et la maladie a fini par toucher son cerveau. Comme le traitement de cette infection n'existait pas et qu'en même temps il a été poignardé dans le dos par un co-détenu, il a été libéré sous caution et est mort le 25 janvier 1947. La syphilis, qui avait quasiment disparu des pays riches au XXe siècle, revient aujourd'hui, hein, surtout dans la communauté gay, mais également chez les hétéros qui ne se protègent pas. On le rappelle. Le seul moyen d'éviter une infection sexuellement transmissible, c'est le port du
préservatif.
Voilà, c'était petit mot de prévention pour commencer cette émission. Au sommaire, Emma.
Médecines alternatives, complémentaires, douces, vous les appelez comme vous voulez. J'ai eu envie de me pencher sur ces approches complémentaires qui rencontrent un intérêt grandissant. Et je commence aujourd'hui avec un petit tour d'horizon concernant l'hypnose. Comment ça marche? Est-ce que ça marche? Et comporte-t-elle des dangers? Eh bien, vous aurez la réponse dans quelques instants.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
Une voix inégalé. Alors c'est marrant qu'on parle d'Al Capone avec Frank Sinatra, qui, on le sait, était assez copain
avec la mafia. Ouais. Alors, vous l'avez reconnu, Frank Sinatra. Alors lui, franchement, il ne souffrait d'aucune maladie particulière. Hein. Au contraire, on peut dire qu'il avait la forme. En tout cas, si on évalue la forme à l'aune de ses conquêtes et de son intérêt pour le sexe. Sans compter qu'il avait, paraît-il, un organe hors norme. Et là, ce n'est pas sa voix dont je vous parle.
Christophe.
Je cours et je me sens toujours tout seul.
Alors il y a ceux qui, comme William Scheller, courent tout seul, il y a ceux qui courent en groupe, il y a aussi ceux qui courent le soir, ceux du matin, ceux qui font ça sur la route, d'autres dans les bois, et puis il y a ceux qui courent en marche arrière. Oui, vous avez bien entendu, en marche arrière, ce sont les adeptes du rétro-running, ce sera notre sujet du jour et on verra si c'est bien et si c'est possible de faire comme Scheller.
Jusqu'à 10h sur RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Avant de vous passer la parole, Emma, je voudrais signaler que nous avons un invité assez exceptionnel tout à l'heure au QI. Ce sera Michel Drucker, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps dans la presse, parler de sa maladie, de ses problèmes cardiaques et du fait qu'il s'en est sorti par miracle. On l'aura en ligne avec nous et j'essaierai de lui poser des questions que personne ne lui a jamais posées. Parce que finalement, tout le monde lui pose les mêmes. Emma, vous allez nous parler hypnose.
Oui, vos paupières sont lourdes.
Avec plaisir, Emma. C'est une approche qui peut faire peur. Vous avez peut-être en tête les séances invraisemblables de grands hypnotiseurs comme Mesmer, capables de vous faire perdre totalement le contrôle.
Bah, vous allez nous raconter ça, puisqu'en effet, vous avez testé, j'ai revu la séquence des pouvoirs extraordinaires du corps humain dans laquelle il vous plonge en hypnose. Il vous fait manger un citron en vous faisant croire que c'est une pomme.
Oui. Et je n'ai jamais été aussi énervé qu'en tournant une émission, quelle qu'elle soit, puisque j'ai passé des heures à essayer de comprendre ce qui s'était passé, puisque je me pensais bien sûr tellement sceptique quant à la réussite de cette séance, et que je me suis écroulé, et j'ai revu, justement, parce que je savais que vous alliez m'en parler, j'ai revu la scène hier, je mets 3 secondes à tomber dans les bras de Mesmer. Mmh. Et il met la main derrière le cou, je ne sais même pas, je me suis dit à un moment, il a appuyé sur un nerf que je connaissais pas, enfin... C'est un truc dingue. C'est une expérience et ça m'a vraiment énervé.
Hallucinant.
Bon, là, on va parler d'hypnothérapie. Oui. Hein. La personne peut être guidée par la voix du thérapeute, mais elle garde le contrôle, hein, tout en lâchant prise. En gros, c'est de l'hypnose, mais à vocation thérapeutique.
Oui, qui vous promet d'en finir avec le stress, avec une phobie, des difficultés d'endormissement, la douleur, les troubles de l'alimentation ou le tabac, notamment. Dans tous les cas, finalement, de se libérer d'un fardeau.
Alors, on décrit l'hypnose comme un état modifié de conscience. On était éveillé, mais on perçoit les choses différemment.
Oui, on est moins sensible aux stimuli extérieurs. D'ailleurs, l'objectif, c'est d'aller chercher des ressources en interne, dans son inconscient. Alors, à dire vrai, on ne connaît pas encore tous les mécanismes de l'hypnose, mais une récente étude finlandaise donne une piste. Elle a été menée sur une patiente particulièrement réceptive à l'hypnose et elle montre que si en temps d'éveil normal, les zones du cerveau communiquent beaucoup entre elles pour traiter l'information, en état d'hypnose, c'est comme si elles se désynchronisaient. Donc c'est peut-être le fameux lâcher-prise, mais enfin évidemment, ça reste encore à préciser.
Voilà, si on a encore beaucoup à apprendre du mode d'emploi, on a déjà une idée des indications pour lesquelles l'hypnose fonctionne et là où c'est moins probant.
Alors ce qu'on sait, d'après une évaluation menée il y a quelques années par des chercheurs de l'INSERM, c'est qu'elle peut être utile dans certains cas. Le syndrome du côlon irritable qui se traduit par des douleurs au ventre, des phases de diarrhée et de constipation, là il semble que des séances régulières permettent de limiter les symptômes. Elle présente aussi un intérêt contre la douleur, notamment d'après les études lors d'une opération réalisée sous anesthésie, que ce soit anesthésie locale ou générale, ça limite le recours aux médicaments antalgiques. Je signale aussi que la Haute Autorité de Santé suggère le recours à l'hypnose dans le cadre d'une prise en charge non médicamenteuse de la douleur pendant l'accouchement. Ça, c'est une recommandation de la HAS, mais ce n'est pas forcément les études qui disent ça. Et puis, dernier point important, également souligné par la HAS, c'est l'intérêt de l'hypnose pour diminuer la douleur chez les enfants. Et d'ailleurs, parmi les moyens non médicamenteux, elle ajoute l'information, la distraction et la relaxation donc auprès des enfants.
Alors ça, c'est ce qui est avéré et recommandé, ouais. Mais on a parlé d'autres choses. Hein. Par exemple, le sevrage tabagique, il y a beaucoup de gens qui y vont. Hein.
Et oui, mais il n'y a pas de conclusion probante sur ce sujet, ni sur l'extraction d'une dent, ni sur la schizophrénie. Alors après, il faut bien comprendre que ce sont des études qui sont plus difficiles à mener que quand on compare deux molécules chimiques. Comparer l'hypnose à autre chose, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais la science telle qu'on l'envisage, elle a du mal à trancher aujourd'hui. Probablement que la méthodologie scientifique n'est pas adaptée et très certainement que l'effet de l'hypnose dans la vraie vie est bien meilleur que ce qu'en disent les études. D'ailleurs, peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui affirment avoir réussi à arrêter de fumer comme ça, grâce à l'hypnose. Donc ça se tente.
Voilà, oui, absolument. Moi, je connais des gens qui sont allés faire des séances d'hypnose et qui ont arrêté de fumer, ne serait-ce que parce qu'ils ont fait la démarche. Et après, on y croit pas, mais en tout cas, il y a eu une démarche de fait et ils se disent, je vais essayer de suivre quand même les recommandations. Ouais. Alors, il y a des limites ou des dangers à cette pratique ?
Globalement, non. C'est aussi un peu pour ça que je vous dis avec légèreté, ça se tente. C'est que non, globalement, il n'y a pas d'effet indésirable. Il y en a très peu, en tout cas. Ce qu'on peut conseiller, c'est de se rapprocher d'un hypnothérapeute qui est également professionnel de santé et surtout de commencer par consulter un médecin. Si vous avez un souci de santé qui dure trop, c'est pas normal et il faut une prise en charge adaptée. Une fois cette étape franchie, que vous ayez un traitement ou non, d'ailleurs, pas de souci pour l'hypnose. Vous pouvez même en parler avec votre médecin, il n'y a aucun problème avec ça. Mais s'il vous plaît, ne sautez pas cette case parce que c'est là qu'il y a des drames qui peuvent se jouer si on traîne trop à diagnostiquer une maladie. Or, je rappelle que le nombre de signalements de dérives sectaires dans le domaine de la santé ne cesse de s'accroître. Ça représentait presque la moitié des cas en 2016, donc prudence.
Absolument, merci Emma, les amis. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de Pierre Desproges parce que c'était l'anniversaire de sa naissance.
Ouais.
J'avais pas pu vous donner toutes les citations qui me plaisent de Pierre Desproges. Il en avait fait une, un psychotique. C'est quelqu'un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5 et qui en est pleinement satisfait. Un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que 2 et 2 font 4 et ça le rend malade. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2 de l'émission et on va parler du Frank Sinatra.
Yes. That's why the
lady... RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. That's why the lady is a tramp. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Much more than this, I did it my way. Yes, there were times.
Frank Sinatra, vous avez évoqué Patrice tout à l'heure avec, m'a-t-il semblé, un brin d'amertume, voire une once de jalousie dans la voix. L'organe hors norme de Frank Sinatra, permettez-moi de vous poser deux questions. C'est quoi cette histoire et surtout comment êtes-vous au courant ?
C'est Ava Gardner qui me l'a dit.
Ouais, c'est ça, ouais, carrément, bien sûr.
Alors, ce qui est bien avec cette formule, hein, organe hors norme, hein, qui mobilise votre attention, c'est qu'on est dans l'ambivalence. Quand on en parle à propos de Sinatra, on pense évidemment à sa voix inimitable, envoûtante. Mais si vous en parlez à, mettons, Ava Gardner, c'est une toute autre histoire qu'elle va vous raconter.
Oui, Ava et Frank, c'est le feuilleton d'une vie. C'est la seule femme que j'ai vraiment aimée. Adidèle Frank Sinatra.
Alors pourtant les choses n'étaient pas gagnées d'avance. Hein. Leur première rencontre se passe dans un restaurant huppé d'Hollywood. Ava Gardner est attablée avec son mari, l'acteur Mickey Rooney. Sinatra débarque et repère immédiatement le couple. Il s'approche, il félicite le mari et, sur le ton de la plaisanterie, regrette tout haut de ne pas avoir connu Ava Gardner avant lui. Réaction de la belle brune, ce type est vaniteux, arrogant, dominateur, moyennant quoi, elle craque. Et ils resteront mariés pendant 6 ans.
Ce qui ne nous prouve absolument pas qu'il est disposé d'un organe hors norme.
Attendez, j'y viens, je sais que ça vous intéresse. Alors, c'est peut-être une légende, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, au cours d'une soirée mondaine, Ava Gardner échange longuement avec un diplomate britannique et lui dit « Sinatra, c'est très simple, c'est 120 livres, dont 110 de sexe ». Et le diplomate, sans doute peu habitué à tant de franchises, va le répéter à tout le monde et c'est ainsi que naît une réputation flatteuse. Heaven.
I'm in heaven. Alors cela dit, pour vérifier l'info, ce ne sont pas les sources qui manquent, parce que Frankie, il les lui fallait toutes et il les a toutes eues.
Oui, le problème c'est qu'elles sont mortes les sources et donc ne peuvent plus témoigner, à part Mia Farrow. Mais sinon les autres, ça va être compliqué, Marilyn Maxwell, Julie Garland, Marilyn Monroe, Eva Bartok, Lorraine Bacall, qu'il pique à Humphrey Bogart, hein. Gloria Vanderbilt, richissime héritière d'une famille à qui l'Amérique doit son réseau ferré. Sinatra l'approche le plus innocemment du monde, lui faisant simplement savoir qu'il aimerait, je le cite, hein, la rencontrer. Alors Gloria confessera dans son journal intime s'être immédiatement dit stop, faut pas y aller, mais ne pas avoir pu résister. Ça fait rire Christophe.
Je comprends.
Sinatra a mis la tête à l'envers. Hein. Madame Vanderbilt quitte son mari, embarque avec ses deux enfants et se retrouve au bras de Sinatra, lequel quelques semaines plus tard est déjà reparti pour d'autres aventures.
Vous êtes sûr que vous n'avez oublié personne,
Patrick? Ah oui, tiens, il y a aussi ça, Pascal. Marlène Dietrich, l'héroïne de L'Ange Bleu qui chantait, je vous garantis pas l'accent, Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Je suis fait de la tête aux pieds.
Voilà exactement ce que Sinatra s'est empressé de vérifier, contribuant à alimenter la réputation de la star, experte, paraît-il, en matière de sexe oral, mais ceci ne nous regarde pas.
Absolument pas. C'est vrai, vous savez pas ce que c'est, ça, vous demandez?
Oui,
c'est vrai qu'Hollywood n'est pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche, et tout le monde commente justement les exploits sexuels de Sinatra.
Oui, tout le monde sait que quand il est en tournée, il installe une bombe anatomique dans une suite luxueuse, hein, dont il fait payer la facture par le producteur. Quant à Nancy Venturi, une autre de ses conquêtes, eh bien, elle est d'une cinglante clarté. Sinatra avait le sexe dans la tête, il aurait fait l'amour à la première venue, il y avait quelque chose de très intense dans sa manière de faire l'amour. Je ferme les guillemets.
Bah dis donc. I've got you
under my skin. Je t'ai dans la peau.
Yes.
C'est ce qu'il est en train de dire. Ouais, pour les gens qui ne speak pas l'anglais parfaitement comme moi. Merci Patrice. Docteur Gilbert Boujaoudé, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour docteur.
Médecin sexologue.
On va enfin savoir, est-ce que la taille compte?
Voilà. La question est simple, elle vient d'être posée par Patrice. Est-ce que la taille compte?
Alors, on va répondre de façon très directe. Ça compte uniquement dans les extrêmes. C'est-à-dire, ça compte uniquement quand on a un micro-pénis. C'est ce qui est une problématique médicale, c'est-à-dire un pénis qui est inférieur à 8 cm en érection, ou ça compte aussi dans les pénis qui sont trop volumineux, qui peuvent poser problème pour les partenaires lors de la pénétration. Entre ces deux extrêmes, la taille compte très peu, et on en a la preuve grâce à une étude faite par des femmes, pour une fois, et non pas par des hommes, sur l'importance de la taille du pénis.
Et est-ce que les hommes consultent, on n'arrête pas de dire ça, que les hommes sont obsédés par la taille de leur pénis, est-ce qu'il y a beaucoup de consultations qui ont ce motif?
Oui, énormément. D'ailleurs, une enquête récente avait montré que plus de 60 à 70% des hommes pense que la taille de leur pénis pourrait être un peu plus importante, en tout cas pense que ça serait bien d'avoir un pénis un peu plus grand, et 40% seraient intéressés par une méthode pour agrandir le pénis. Donc effectivement, c'est un motif de consultation extrêmement fréquent, avec une particularité, la très grande majorité des hommes qui consultent pour problème de taille de pénis ont un pénis de taille parfaitement normale.
Patrice.
C'est quoi la taille standard en érection ? C'est pour un ami.
J'allais dire, je vais répondre. Bouge pas.
Alors pour votre ami, s'il nous écoute, la taille standard en Europe semble tourner aux alentours de 13,5 cm en érection. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent, si vous voyez sur Internet, mais on a très très peu d'études avec une équipe médicale qui a mesuré les pénis en érection. Il faut se rendre compte de ce que c'est de faire une telle étude. Il faut se mettre devant une équipe médicale qui mesure en érection. Et donc, c'est pas évident à faire. Et donc, ça semble en Europe tourner aux alentours de 13,5 cm. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude qui a été faite par les femmes, où on a fait des moulages de pénis de toute taille, de toute forme, de toute ethnie, avec des couleurs bleues, pour qu'il n'y ait pas de choix difficile à faire pour les femmes. Et quand on a demandé aux femmes de choisir la taille de pénis qui leur paraît la plus intéressante, celle qui leur paraît la taille idéale, et ben figurez-vous que c'était à peu près aux alentours de 13,8. Donc finalement, ce que les femmes objectivement regardent, c'est proche de la réalité. C'est plutôt les hommes qui ont l'impression que la taille du pénis est trop petite.
Alors l'ami de son ami veut compléter.
Vous avez évoqué le micro-pénis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de plus en plus de cas de micro-pénis qui seraient éventuellement dus à des problèmes environnementaux?
Il n'y a pas d'études vraiment faites dessus, mais c'est une impression qu'on a effectivement qu'avec les perturbateurs endocriniens, avec les toxiques environnementaux, il y a de plus en plus d'andropause précoce, de plus en plus d'anomalies. Par exemple, il y a de plus en plus de cancers de testicules par rapport à avant, de puberté précoce, et donc on se demande s'il n'y a pas des anomalies du pénis qui peuvent être présentes. Même si certains anthropologues pensent aussi que c'est l'évolution naturelle de l'homme d'avoir un pénis un peu plus petit que dans le passé, mais c'est pas quelque chose de confirmé.
On va pas faire uniquement une discussion entre mecs. Nous avons Emma Stra qui a une question pour vous. Gilbert.
Mais oui, il n'y a pas de raison. Je me demandais pourquoi ça ne suffit pas de dire tout ça, c'est-à-dire que la taille ne compte pas au-delà des extrêmes de votre étude menée par des femmes. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'autre chose que la taille du pénis? Finalement, ça dit autre chose aux hommes et peut-être entre eux.
Oui, ça ne suffit pas.
J'aime bien parce qu'une femme élève le débat tout de suite.
Oui, vous voyez. Mais vous allez voir, ça existe chez les femmes aussi. Il y a des femmes à qui on a beau dire qu'elles sont très bien, qu'elles sont très belles et qui continuent à trouver qu'elles ont des défauts. C'est quelque chose d'humain et chez les hommes, c'est à peu près la même chose. Alors, je pense que ça vient d'une vieille idée quand même qui traîne que plus on a un gros pénis, plus on va pouvoir donner du plaisir à l'autre. Et ça vient d'une vieille idée qu'un homme viril a un gros pénis, même si on compare par exemple aux vieilles générations, je vais même remonter au temps des Grecs si vous vous souvenez, un homme, un beau, les dieux avaient des tout petits pénis sur les statues.
Ah oui, les statues.
Ah bah oui.
Et c'était les vilains qui avaient des gros pénis, simplement parce qu'à l'époque on considérait qu'un homme, un vrai, c'est quelqu'un qui est capable de se détacher de ses pulsions animales et développer ses capacités intellectuelles, cérébrales, mentales, etc. Donc c'est quelque chose qui est très sociétal et c'est un petit reste. Je pense que c'est en train de changer tout doucement quand même avec l'évolution de la connaissance de la sexualité féminine où on explique maintenant aux hommes que mais non, la femme, c'est pas par pénétration qu'elle a les plus belles sensations, etc. Et donc ils vont développer, à mon avis, des capacités plutôt de comportement sexuel. D'ailleurs, Patrice tout à l'heure a dit sur Frank Sinatra en terminant qu'une de ses conquêtes a dit qu'il a une façon de faire l'amour qui était extraordinaire.
Voilà, c'est plus important. Ouais.
Ce qui montre bien que c'était pas sa taille de pénis, c'était son comportement.
Merci beaucoup, docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue référent pour notre émission.
Merci.
Et petite citation de Pierre Desproges qui disait « L'amour, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font, à partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. » On se retrouve...
Je me tais aussi. Bonne journée.
Bientôt. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 3 et avec le jeu.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Retour pour la partie 3 avec la partie jeu. Avant, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good, avec le nouveau numéro en kiosque actuellement, avec en couverture le mal de dos à l'intérieur, un gros dossier sur ce qu'on appelle aussi le mal du siècle, comment prévenir le mal de dos, comment le traiter, les gestes à faire et à ne pas faire dans Dr Good en kiosque actuellement. Et on va jouer avec Boris. Bonjour Boris.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez ?
Très bien Boris, on vous entend très bien. Vous êtes là pour jouer, pour gagner une semaine sur un bateau de location, le boat. Une semaine en vacances pour 4 personnes, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Un beau cadeau, mais pour ça il va falloir répondre à la question.
Oui,
vous allez avoir 3 versions, une seule est bonne. Sarah Colwell est une trentenaire britannique. Elle vit dans le sud-ouest de l'Angleterre, à Plymouth. D'ailleurs, elle a l'accent de sa région quand elle s'exprime. Et puis, il y a une dizaine d'années, un matin, elle se lève et se met à parler anglais, sa langue natale, mais avec l'accent chinois. Et ça va durer pendant plus d'un mois. Que s'est-il passé ? Version Patrice.
Eh bien, figurez-vous que Sarah regardait une série télévisée chinoise en version originale, sous-titrée, oui.
Ce qui est drôle.
Dans son lit, avec des écouteurs sur les oreilles. Et elle s'est endormie pendant son sommeil. Les épisodes se sont enchaînés les uns après les autres. Je rappelle que c'était en chinois. Et au réveil, eh bien, elle parlait anglais avec l'accent chinois. Elle a été victime de ce qu'on appelle le syndrome de l'éponge somnolente. C'est-à-dire que son cerveau s'est imprégné de l'accent chinois. Mais oui.
L'éponge somnolente.
Mais c'est tout à fait connu. Ne riez pas.
L'éponge somnolente. C'est
mais l'éponge somnolente, c'est un syndrome que je n'avais pas personnellement appris à la faculté, mais qui est assez c'est récent. Version Christophe.
Ouais, mais heureusement qu'elle ne regardait pas La plus belle la vie. Alors attention, en fait, cet accent chinois est apparu alors qu'elle était à l'hôpital où elle avait été admise suite à une intense crise de migraine, sans doute consécutive à un petit accident vasculo-cérébral. Et à cette occasion est apparu ce qu'on appelle le syndrome de l'accent étranger. Un syndrome extrêmement rare qui vous fait parler avec un accent qui n'est pas celui de votre langue maternelle. Donc elle parlait anglais avec l'accent chinois, voilà, à ce moment-là.
Pour un accident vasculaire cérébral. Version Emma.
Là, en fait, on n'a jamais bien su ce qu'elle
très
a
bien,
vu.
Très bien, merci beaucoup.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que son cas a été médiatisé et qu'au fil des recherches, les médecins et les psys qui se sont penchés dessus ont découvert, en enquêtant sur son histoire familiale, qu'un de ses arrière-grands-oncles était parti en Chine avec toute la famille dans les années 20 et que tout le monde avait disparu sur place, que personne n'était revenu.
Ah, ce serait donc un traumatisme.
Ah, c'est un traumatisme psychologique qui fait que...
Ce serait.
Mmh. Bon, alors, Boris, vous avez donc 3 versions. La première, celle de l'éponge.
Je comprends pas. L'éponge
Bob,
machin,
Bob,
là.
On l'appelait Bob.
L'éponge somnolente.
Moi-même, j'ai déjà oublié.
Ouais. L'éponge somnolente. En fait, elle s'est endormie avec un casque. Hein. Version Christophe, c'est le syndrome de l'accent étranger lié à un accident vasculaire cérébral. Et version Emma, c'est rien. En fait, on ne sait pas, si ce n'est qu'elle a peut-être un aïeux.
Traumatisme
qui...
familial.
Un aïeul, pardon. Un aïeul. Un aïeul. Je confonds toujours avec les couteaux en plus. Un aïeul qui aurait disparu en Chine.
Dans le centre de la France. Ouais. Dans l'Aveyron. Non, il est disparu dans l'Aveyron.
Bon, enfin bref.
Dans ouais. L'Aveyron du centre de la Chine.
Ouais. Oh la vache.
Bon Boris.
Alors,
si vous n'avez pas la réponse, là Boris, on ne peut plus rien faire pour vous. Là, c'est... On a le directeur financier d'RTL qui tape à la porte du studio et dit...
Arrêtez de faire gagner les cadeaux, c'est pas possible. Alors,
Boris.
Je pensais à la version de Christophe de cette maladie.
Eh bien, contre toute attente, vous avez gagné, Boris.
Bravo, Boris.
Alors, vous avez gagné, attendez, je vous rappelle, une semaine sur un bateau de location, le boat. En anglais, ça signifie le bateau. Une semaine pour 4 personnes pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Christophe, expliquez-nous tout ça.
Oui, le syndrome de l'accent étranger est extrêmement rare. Il peut être d'origine neurologique, psychiatrique, développementale. Le premier cas, si l'on en croit les archives disponibles, remonterait à 1919. Il est mentionné dans une étude tchèque. Et en un siècle, on a recensé quand même une 50aine de cas dans le monde.
Ah
voilà.
Oui, quand même.
Eh oui.
Merci Christophe, merci Boris, et puis bonne croisière sur une rivière ou un canal français avec le boat.
Eh ben, merci beaucoup, c'est super.
Merci, à bientôt.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
S'il y a bien une citation de Pierre Desproges, vous savez, hein, on en parle souvent, qui pourrait coller à l'invité de notre QI, question à l'invité aujourd'hui, c'est bien celle-là, la seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Michel Drucker, bonjour.
Bonjour docteur.
Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver sur Terre que vous avez frôlé la catastrophe après opération cardiaque, infection à répétition. Alors je pense que des doutes, vous en avez eu pas mal pendant tous ces mois où vous êtes passé entre les mains des chirurgiens, non ?
Oui, je les ai partagés au téléphone avec vous de temps en temps. J'ai encore des doutes parce qu'il y a des jours où je me demande si vraiment j'en suis complètement sorti. Et la liste des choses qu'on avait à faire dans mon petit corps de vieux, c'était comme une liste impressionnante.
Alors vous racontez tout dans « Ça ira mieux demain », sorti chez Robert Laffont. Michel, tout le monde sait que vous êtes hypochondriaque. Hein, je dirais même que vous êtes l'idole des hypochondriaques. On raconte, vous allez me dire si c'est vrai, que vous avez choisi votre appartement parisien en fonction des cabinets de médecins qui se trouvaient dans le quartier. C'est vrai ou pas ?
C'est vrai que j'habite dans un périmètre sécurisant, qui est celui de mes débuts en plus, c'est ça qui est émouvant, j'habite à la rue Cognac-Gé, et donc il y a une clinique juste en face, les pompiers au coin de la rue, une pharmacie, un laboratoire, j'habite au-dessus de la clinique des yeux, enfin, je suis complet.
Ça vous rassure ?
Bien sûr, ça me rassure, bien sûr.
Et vous savez, Michel, quand on parle aux hypochondriaques et qu'ils tombent malades un jour, ils sont presque rassurés parce que finalement, ils peuvent dire à leur entourage, je vous l'avais bien dit. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, quand on est hypochondriaque et qu'on tombe malade, on dit, enfin, on va me croire et je vais arrêter d'emmerder le monde parce que je l'avais dit, finalement.
Ben oui, absolument. Mais j'avais dit qu'il fallait se surveiller. Et cela dit, est-ce que tout le monde n'est pas un peu hypochondriaque ? Enfin, hypochondriaque, c'est simplement vouloir ne pas tomber malade, ne pas aimer la souffrance et essayer de mourir en bonne santé, vivre le plus vieux possible. Mais là, ça y est, maintenant, vous savez mieux que personne, puis j'ai été opéré dans un endroit que vous connaissez bien, Michel, et qu'en principe, tout est neuf. En principe, le moteur est neuf. Donc, je suis en fin de rodage, mais il est neuf.
Alors, coach Cricri, qui est notre coach sportif, et Dieu sait si quelqu'un qui fait du sport, c'est bien vous, a une question, Christophe.
Ben justement, Michel, je voulais savoir, vous avez fait toujours beaucoup de sport dans votre vie, on sait que vous adorez le vélo. Est-ce que ça vous a pas aidé à lutter un peu contre cette espèce de stress de la maladie, de faire tout ce sport ?
Ben, ça m'a sauvé. Les chirurgiens vous diront que si j'avais pas fait, si j'avais pas cette hygiène de vie, si j'avais pas fait ce sport, si j'avais eu cette discipline depuis toujours, je suis pas certain qu'ils m'auraient opéré. Enfin, c'était quand même assez compliqué. Donc, je regrette pas du tout. Et le sport, je vais en faire encore plus maintenant puisque l'instrument idéal de la rééducation cardiaque, c'est le vélo. Donc là, je m'en donne à cœur joie chez moi. Donc maintenant, j'en suis à 1h30 de sport par jour. Je me sens beaucoup mieux. Mais ce livre, je l'ai aussi écrit pour dire aux gens, faites du sport, marchez, bougez, écoutez le magazine de la santé, écoutez Michel Simès sur RTL tous les matins, et vous verrez qu'on peut se sortir de tout. Ça, c'est vrai.
Mais vous êtes un exemple extraordinaire. Enfin, moi qui vais me battre pendant 3 ans d'ici les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour sortir les Français de la sédentarité et de l'inactivité physique, vous êtes un modèle pour nous extraordinaire, un modèle vivant de ce qu'il faut faire en termes d'hygiène de vie, d'activité physique pour pouvoir affronter des problèmes aussi graves que ceux que vous avez affrontés. Et vous ne seriez probablement, vous ne seriez probablement pas là pour répondre à nos questions si vous n'aviez pas eu cette hygiène de vie et cette activité physique.
C'est clair. Là, en principe, après une telle opération, il faut à peu près une petite année, voire une bonne année pour récupérer et pour reprendre une activité à peu près normale.
Si on récupère.
Si on récupère. Mais heureusement que j'ai fait du sport. Heureusement que je n'ai pas picolé. Heureusement que je n'avais pas une surcharge pondérale. Heureusement que je me couche tôt. Et heureusement que j'ai toujours pédalé, nagé. Voilà.
On a dit qu'on se retrouvait sur les pentes du Ventoux, hein, Michel.
Le Ventoux, d'ailleurs, Michel, je sais que vous avez lu mon livre. Moi, ce qui m'a remonté le moral, finalement, c'est une scène qui m'est revenue entre les antidouleurs et la morphine, en plein délire, c'est que je monte le Ventoux en 93, je suis à l'agonie, évidemment, car j'ai passé l'entraînement. Je suis à 5 km du sommet, avec des petits virages à 10-12%. Je suis vraiment, aux portes, vraiment, du cimetière. Je réclame le SAMU. Et là, j'entends un bruit derrière moi. Et il y a un gars qui me dit « Allez, Michel, allez, je t'attends au Chalet Reynard. » C'est la dernière étape avant l'enfer. Il me dit « On y croit. » Et le gars, il me double en pédalant avec une souplesse incroyable. Je découvre qu'il a un bras et une jambe seulement. C'est le champion du monde en e-sport de l'époque, qui s'appelle Christian Moulic, qui habite au pied du Ventoux. Et le gars, c'est un handicapé, il avait la main accrochée à la potence comme une tenaille, et avec sa jambe droite, il tire un bras qui est phénoménal. Quand je l'ai vu passer, qu'il m'a largué, j'avais plus mal nulle part.
Ouais, et puis pour l'avoir fait le Ventoux avec Christophe et Patrice, justement, on l'a fait tous les trois. Je peux vous dire que déjà avec deux jambes, c'est déjà difficile.
C'est rude. Hein.
Merci beaucoup, Michel.
Merci à vous, Michel.
C'est un très très beau message, effectivement, d'espoir pour tous ceux qui ont eu des problèmes. C'est voilà, Michel Drucker, ça ira mieux demain chez Robert Laffont, si je peux me permettre, Michel. C'est peut-être plus le médecin ami qui vous le dit. Je vous ai vu il y a quelques jours dans C'est à vous. Je vous ai trouvé un petit peu fatigué. La promo vous prend beaucoup d'énergie. Il faut vous reposer un petit peu, Michel.
Mais c'est vrai. Mais là, je fais ma dernière promo et la semaine prochaine, vive la Provence.
Bon, ok. Et puis reposez-vous. On tient à vous. Merci beaucoup, Michel.
Merci, docteur.
Merci. Dans un instant, la dernière partie de l'émission avec justement notre ami Coach Cricri qui va nous parler d'un truc complètement dingue. Il y a des gens qui courent en marche arrière.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Trop je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Christophe, on en a vu des pratiques bizarres dans le sport, mais là vous êtes tombé sur un truc peu commun. Il y aurait des gens qui courent en marche arrière. Première question, pourquoi ? Deuxième question, à quel moment ça a bugué ?
Alors, en fait, je suis retombé sur un article de Rue 89 qui parlait d'un certain Christian Grollet qui avait lancé cette discipline dans les années 80. Il disait à l'époque que le rétro-running pouvait prévenir les blessures parce qu'il y a moins de poids sur les appuis, guérir plus rapidement certaines blessures, chevilles, genoux, haines. Il pouvait aussi renforcer musculairement la colonne vertébrale, gagner de la puissance et de l'endurance, mieux stimuler son système cardiovasculaire et brûler plus de calories. Rien que ça.
Mais j'ai quand même vu des athlètes de sport collectif courir en arrière lors de l'entraînement, lors des échauffements.
C'est les arbitres aussi qui font ça beaucoup.
Oui, ouais, mais oui, dans le cadre d'un échauffement, de la préparation au match, courir en arrière fait partie des exercices classiques, notamment pour préparer les prises d'appui. Vous avez ça au foot, au tennis, au rugby, au hand, au basket. Sans compter que dans tous ces sports, il y a des phases de jeu au cours desquelles on doit bouger en arrière pour se replacer, pour remettre sa défense en jeu, au foot par exemple, pour contrer l'offensive d'un adversaire. Au tennis aussi, on reconnaît par exemple les bonnes qualités d'un joueur à sa capacité à aller vite d'avant en arrière, justement.
Alors, je veux bien croire tout ça, Christophe, mais sur le plan cardiovasculaire, je suis un peu dubitatif pour comprendre comment courir en marche arrière est aussi bon que courir en marche avant.
Alors, il a été dit que le rétro-running permettrait d'augmenter la quantité d'oxygène dans les poumons. Comme c'est un mouvement, on va dire, contre nature, il impose un plus gros effort, donc une consommation d'oxygène plus importante. Sauf que pour augmenter sa consommation d'oxygène, donc pour travailler sa performance, il suffit de courir en avant et plus vite. C'est ce que dit d'ailleurs Gérard Porte, qui est un petit peu comme vous dubitatif sur le sujet. Il assomme le débat avec un argument massu, si je puis dire. Comment notre système cardiovasculaire peut-il mieux être stimulé qu'en courant, sachant qu'il ne sait pas, lui, si vous allez en avant ou en arrière. Tout comme d'ailleurs votre cœur, qui n'a aucune fichue idée de l'activité physique que vous pratiquez. Gérard Porte ajoute, on a plus de chances d'aller plus vite et plus longtemps en courant normalement, donc de brûler plus de calories.
Gérard Porte, qui a été le médecin chef du Tour de France, donc il sait de quoi il parle. Et vous, notre coach Cricri, vous en pensez quoi ?
Oui. Vous voulez savoir ce que j'en pense ?
C'est un peu la question que
je vous pose.
Michel Simès, je vais vous le dire. Depuis qu'il est sur Terre, l'homme se déplace en marche avant.
Oui,
donc
c'est vrai.
Faisons confiance à la nature qui a mis nos yeux devant notre visage, c'est bien pour regarder où on met les pieds. Et sa performance physique, l'être humain l'a trouvé se déplaçant en avant pour fuir un danger, pour poursuivre sa proie, pour évoluer dans son environnement tout simplement. Vous voyez.
J'ai une question, il n'y a jamais eu de course de rétro-running ?
Eh bien oui, il y en a eu, et devinez. Où, eh bien évidemment, chez nos amis britanniques, qui sont adeptes comme ça d'épreuves un peu loufoques, le plus rapide rétro-runner serait Gareth Doherty, un Irlandais. Tenez-vous bien, il boucle le semi-marathon, donc 21 km en 1h40, ça fait presque 13 km/h. 13 à l'heure, c'est déjà pas hyper simple en avant, alors en arrière, dis donc. Voilà.
Merci beaucoup, coach Cricri. Ça me rappelle une phrase de Philippe Gueluc, s'endormir au volant, c'est très dangereux, s'endormir à vélo, c'est très rare, s'endormir à pied, c'est très con. Emma.
Il y a un peu de ça.
Petit quiz musical, à votre avis, qu'est-ce qui est mieux pour combattre le stress ? Ça ? Ou ça ?
J'aurais tendance à dire la première version, mais forcément, il y a un piège.
La deuxième à cause du tempo.
Ouais, la deuxième.
Bravo, Michel. Et c'est pas tant à cause du tempo que du fait qu'on parle de musique des années 80, donc A.A., Blondie, George Michael, Cyndi Lauper. C'est ce que dit une étude réalisée en Turquie et relayée par le New York Post sur un peu plus de 1500 participants âgés de 18 à 65 ans. 96% ont vu leur tension artérielle baisser en écoutant ce type de morceau et un peu plus d'un tiers a ressenti une baisse du rythme cardiaque. Bon, le centre qui a mené l'étude, il est spécialisé dans la chirurgie esthétique, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes.
Très fiable.
Mais, mais l'argument avancé m'a plu. Ces tubes des années 80 pourraient susciter de la nostalgie et il est possible que leur sonorité joyeuse provoque une libération d'endorphines et de sérotonine, vous savez, ces hormones du bien-être et du bonheur.
Merci les amis pour ces bons conseils, cette bonne humeur, vous êtes formidables. C'est toujours un plaisir de vous retrouver toutes les semaines à 9h15. Et puisque Patrice, vous nous avez parlé de Francky
et de son organe hors norme,
n'oubliez pas.
It's the good life, full of fun, seems to be the ideal.
It's a good life, c'est la belle vie, la version américaine chantée par Frank Sinatra, la belle vie qui arrive, on en est sûr. Et en tout cas, nous, on sera encore là dimanche prochain, 9h15 pour l'hebdo, pour vous faire plaisir et nous faire plaisir, tellement c'est sympa de présenter cette émission avec mes trois petits copains. Merci, chers amis, et à la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Bisous, bisous.
Bonne semaine.
Kiss that good life. Goodbye.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.